automobile.
Virginie Langeroc.
En Valais, les autorités font un point actuellement sur la situation autour de la commune de Blatten. Elles sont réunies dans le bourg de Ferden, non loin de l'effondrement du glacier qui s'est produit hier. Le canton a déclaré une situation d'urgence pour avoir plus rapidement accès à davantage de moyens. Et pour mieux appréhender la situation, les autorités sollicitent aussi l'avis de bureaux d'ingénieurs spécialisés. Par mesure de sécurité, 16 personnes ont été évacuées hier soir des localités situées en aval du village. Les 300 habitants de Blatten avaient été évacués le 19 mai, bien avant donc cet effondrement. Avec la chute de 3 millions de mètres cubes de roche depuis le glacier, un lac s'est formé dans le village de Blatten et il continue de se remplir d'heure en heure, risquant à tout moment de déborder. La situation est tellement instable que les autorités écartent pour le moment toute intervention sur le site même. Un barrage artificiel a été préventivement vidé pour contenir l'eau qui s'accumule avec ces tonnes de débris de glace, de terre et de gravats et qui bloque le passage de la rivière. Un tribunal américain bloque les droits de douane dits réciproques qui avaient été instaurés par Donald Trump. Deux plaintes avaient été déposées ces dernières semaines par une alliance de 12 États américains et par un groupe d'entreprises américaines pour dénoncer ces droits de douane. Les juges estiment que cette décision d'imposer des droits de douane relève d'une prérogative du Congrès et que le président américain a donc outrepassé les pouvoirs dont il dispose. Le gouvernement américain a fait appel de cette décision. La Chine condamne la décision du gouvernement américain de révoquer les visas d'étudiants chinois. Il s'agit de la dernière mesure en date prise par l'administration américaine dans son offensive contre ses universités. Plus de 270 000 Chinois étaient inscrits dans les universités américaines pour l'année 2023-2024. Ce sont les derniers chiffres dont on dispose, seulement dépassés en nombre par les étudiants indiens, selon un rapport approuvé par le département d'État. Les étudiants chinois représentent l'une des sources de revenus les plus importante pour les universités aux États-Unis. Le Royaume-Uni dénonce aujourd'hui le projet du gouvernement israélien de créer 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée. Londres estime qu'il s'agit d'un obstacle délibéré à un État palestinien. Israël a fait cette annonce ce matin. L'escalade militaire d'Israël à Gaza et le nombre de morts qu'il entraîne suscite de plus en plus de critiques à l'étranger, notamment en Europe, y compris parmi les plus proches alliés d'Israël. À Gaza, au moins 44 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza aujourd'hui, où des milliers de Palestiniens affamés se sont rués hier sur un entrepôt du Programme alimentaire mondial pour s'emparer de vivres. Le soleil est bien présent aujourd'hui avec de rares cumulus cet après-midi en montagne. En plaine, il fait un maximum de 28 degrés sur le plateau. Il fera jusqu'à 30 degrés en Valais. Le week-end s'annonce également chaud et bien ensoleillé. Demain, en fin de journée, on peut s'attendre à des nuages et à des orages. D'abord sur le Jura, puis partout ailleurs durant la nuit. En plaine, il fera un minimum de 13 degrés et un maximum de 29 degrés. Il faut compter aussi sur de fortes rafales possibles à proximité des orages.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Sur la route d'accès au tunnel du Grand Saint-Bernard, on compte jusqu'à 1h30 de retard à partir de Bourg-Saint-Pierre en direction de l'Italie. Sur l'axe Genève-Ost, l'attente au péage français du tunnel du Mont-Blanc est estimée à 1h30. Et puis enfin, la situation sur l'axe Lucerne-Chiasso, 4 km de colonne et jusqu'à une demi-heure d'attente entre Beckenried et le tunnel du Zellisberg en direction du Gotthard. Et 9 km de bouchon entre Erstfeld et l'entrée nord du tunnel du Gotthard en direction du Tessin, soit 1h30 d'attente environ.
Chacun pour tous. La minute de solidarité avec Jean-Marc Richard.
Nous recherchons des bénévoles pour le samedi du partage de ce printemps 2025. Prochaines actions, les 13 et 14 juin, dans 160 enseignes réparties dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg. Nous recherchons donc pour les samedis du partage des bénévoles. Il en faut plus de 400 dans le canton de Genève, plus de 400 aussi dans le canton de Vaud et plus d'une centaine dans le canton de Fribourg. Annoncez-vous pour ces deux dates, 058 236 16 00. Renseignez-vous sur le samedi du partage sur rts.ch/chacun pour tous. N'hésitez pas, engagez-vous, luttons efficacement contre la précarité en Suisse. Bienvenue.
Drôle d'époque. Mélanie Crovalian
Simon Mathédoré.
C'est la deuxième heure de Drôle d'époque, toujours accompagnée de Sophia Muller à la réalisation. Émilie Gasque, on va parler photo, hein, puisqu'on parle photo depuis une heure. Émilie Gasque va revenir avec son micro-trottoir consacré à la photo. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Alain Numerose est notre invité. Son exposition « Une rafale des racines » est à voir à Estavayer-le-Lac au Musée des Grenouilles jusqu'au 7 septembre. Résultat de ce qu'il était allé voir par constater de visu avec son appareil il y a 25 ans, c'était Lothar et la tempête qui avait suivi le lendemain matin, 1999-2000, ces millions d'arbres par terre. Et puis pourtant, ce travail n'avait pas été montré tout de suite, bien au contraire. Il a fallu plus de 20 ans pour qu'il le sorte des tiroirs
et
qu'il le montre enfin au public au Musée des Grenouilles à Estavayer. Oui, Mélanie,
Mais justement, à propos du Musée des Grenouilles, il y a quoi d'habitude dans ce musée? Il y a des grenouilles?
Il y a une salle qui est occupée par des grenouilles empaillées.
N'est-ce pas l'emblème de la ville, la grenouille?
Je ne sais pas.
À vérifier. Il y avait Lothar, effectivement. Il y a eu pas mal de choses entre deux. Vous nous avez parlé de votre projet qui s'appelle Vue Off, jeu de mots avec voix off, mais vous, c'est les yeux. Photographier 200 femmes. ça prend plusieurs heures. En musique, on l'a compris. Plusieurs années. En musique, on l'a compris. Il y a un fond sonore. Ça fait des milliers de photos que vous êtes en train de trier, etc. Ça, on pourra le voir quand, ce travail?
Je sais pas. Quand je produis, je me soucie peu de la sortie de ça. De temps en temps, je me dis que c'est plus un projet éditorial qu'un projet d'exposition.
Vous rejoignez les écrivains qu'on reçoit parfois à ce micro, oui, et qui nous disent toujours, moi j'écris pas pour être lu, j'écris pour moi. J'écris d'abord pour le fait d'écrire et de ce qu'il produit en moi, puis le reste on verra. Au fond, vous nous dites la même chose.
Mais bien sûr, et en fait... Si je vais être extrêmement transparent et honnête avec moi-même, la raison pour moi d'exposer ou de publier, exposer surtout, c'est que tout à coup, c'est la seule manière de voir ce qu'on a fait ailleurs que dans son atelier et tout ensemble. C'est-à-dire, tout à coup, on voit ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là. Et on regarde, on constate si ça tient la route ou pas.
Donc c'est vous exposez pour vous, en fait.
C'est ça.
Non, j'expose. Non, non.
C'est une matière d'inventaire.
Je donne. Je donne. Mais ça fait partie de mon processus de porter au public ce que je fais. Sinon, on garde.
Sinon, on développerait pas grand-chose.
Ouais, ouais. Mais quand on expose, quand je pose les images sur les murs, en organisant l'espace et tout, c'est là que je vois vraiment si ce travail, si tout ce que j'ai dit leur passait. Tout ce que je mets dans cette drôle d'activité, quand même, tient la route ou pas. Donc il faut du temps.
Et en général, ça tient la route?
En général, ça tient la route.
Bon, comme sur votre moto, vous êtes venu au guidon de votre moto. Hein. Vous êtes quelqu'un qui savait tenir la route, parce que sinon c'est dangereux. Hein.
Comme le petit pouce.
Sur deux roues. Alain Numerose, j'ai vu qu'à l'époque, vous aviez entamé des études linguistiques, etc. à l'université, puis vous les avez interrompues pour devenir photographe. Ça s'est passé comme ça?
Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
La photo qui est venue à vous? Comment ça s'est opéré?
Bon, j'ai fait ma maturité à Porrentruy et c'était une période de ma vie assez triste. Brièvement, à 18 ans, j'ai perdu à peu près toute ma famille, sauf mon père. Bref, à 18 ans, je fais ma matu, 20 ans, je fais ma matu, je sais plus. Et je commençais de sortir avec une ravissante jeune femme qui allait devenir mon épouse et mère de... mon ex-épouse maintenant, et mère de nos quatre enfants. Et elle partait à Genève après la maturité pour aller s'inscrire à l'Uni, finir son inscription à l'université. Et moi, il faut se rendre compte que à l'époque, j'avais... toute chose en valait une autre. Je le répète, j'étais le rescapé d'un radeau, quoi. Donc,
je veux pas briser votre intimité, mais quand on entend ça en direct, j'ai perdu quasiment toute ma famille. On a envie de vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, il s'est passé qu'on vivait dans un village à Kourou, exactement, dans une grande maison où il y avait deux appartements. Dans un appartement, il y avait mes grands-parents maternels. dans mon grand-père, qui fut un initiateur de mon enfance. J'allais me promener avec lui en forêt. Et c'est lui aussi qui est à la base de ma vue, d'une certaine manière, parce qu'on se promenait, c'est-à-dire qu'il s'occupait de moi, on se promenait, et puis tout à coup, à l'orée de la forêt, montrait du bout de sa canne de marche, avec la pointe en acier, il me dit, tu vois ce rocher là-bas, et puis moi, je regardais, enfin, quand on suit le doigt de quelqu'un qui nous montre quelque chose, on voit jamais. Et moi, je voyais pas, par contre, je fouillais tout l'espace, quoi. Ça s'ancre là, ce faux focus que je cultive encore maintenant. Quoi.
Avant c'est... même que vous n'ayez un appareil photo.
Mais bien sûr, j'étais gauche, je regardais, je frottais ma joue contre son veston.
C'est pelle aiguisée le regard.
Ouais, et je fouillais tout pour essayer de trouver ce qui me montrait, c'est-à-dire un rocher qui avait la tête d'une sorcière. Mais jamais j'ai vu peut-être la sorcière. Bref. Et le jour même, à 8 ans, 9 ans, le jour même où... sortant de la piscine de Delémont, triomphant, j'avais vaincu tout l'univers, c'est-à-dire je savais nager. Ce fameux jour-là où je cours en dehors de la piscine, mon père venait nous rechercher, je lui proclame ça, le ciel était d'orage et il n'entend pas la nouvelle. Et il me dit au bout d'un moment, sur les 3 kilomètres qui séparent la piscine de Kourou, il me dit « Écoute, grand-papa est mort, crise cardiaque ». Alors voilà, mon grand-père est mort, j'avais donc 9 ans, ma grand-mère après est morte, j'avais 11 ans, ma mère est morte après, j'avais 13 ans, et mon frère aîné est mort, j'avais 17 ans. Donc il restait pas grand-chose, comme... Ouais, il restait pas grand-chose.
Et tout le monde, et on l'a compris, donc tout le monde habitait dans le même espace géographique,
ouais,
ou quasiment.
Et c'était des êtres chers.
Dans cette maison de contes de fées aussi, un peu à la Lume Rose.
Avec une épicerie. Avec une épicerie au rez-de-chaussée et un grenier immense. Moi, j'ai vécu en deux zones de stockage, c'est-à-dire en bas, le stock qui se vendait pour faire vivre la famille. Et en haut, le stock des... On revient peut-être pas pour rien sur cette tradition patrimoine. Donc, j'ai vécu là entre, plus souvent au grenier qu'ailleurs. Et,
Donc, on revient aux études, là?
On en revient. Donc, Fabienne va s'inscrire à l'Uni, je l'accompagne à Genève parce que j'avais du temps à perdre. Et cette inscription prenait des plombes, quoi. Ça durait. Et moi, je m'emmerdais au Landolt, au bistrot. Et par impatience, je vais à l'Uni, puis je dis, tiens, moi, pourquoi pas, je veux aussi m'inscrire à l'Uni parce qu'il était plus ou moins compté que j'allais vivre aussi à Genève. Et j'entre à l'Uni, j'entre dans un bureau pour m'inscrire j'allais dire l'infirmière, quel joli lapsus. La secrétaire me dit, oui, alors, vous avez votre préinscription? J'ai dit, non, j'ai pas du tout de préinscription. Et là, elle commence à me dire, non, mais enfin, c'est pas possible, c'était la dernière étape. Puis j'ai dit, oui, je sais, mais j'aimerais bien, j'aimerais faire l'Uni. Et puis elle me dit, bon, vous êtes de où? Je vous ai dit, du Jura, quelle école vous avez fait? Puis je lui ai dit, j'ai fait l'école secondaire à Courondelin. Qui est j'ai vraiment toujours détesté l'école. Mais il y avait un prof là, un vieux prof, qui faisait peur à tout le monde, qui était un type mais fantastique. Moi, il me faisait pas tellement peur, et il le comprenait. Donc, on avait un rapport qui était.
Vous savez pourquoi à vous il faisait pas peur?
Mais parce que j'étais subjugué parce que ce qu'il nous racontait, c'était un mec qui racontait des histoires fabuleuses et qui avait une autorité qui n'était pas une autorité parentale, qui était une autorité de quelqu'un qui raconte.
C'est de narrateur.
De narrateur, c'est une toute autre affaire. Et je raconte ça à cette fille, elle me dit, ah oui, à Courondelin, mais comment s'appelait ce prof? Je lui dis, il s'appelait Germain Billeux. Et là, la fille me dit, c'était mon oncle.
C'est pas possible.
Et elle m'inscrit.
C'est le destin.
Et je commence des études en histoire de l'art et en linguistique.
Choisi au hasard, histoire de l'art et linguistique?
Non.
C'est presque trop beau pour être vrai, mais c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Histoire de conte de fées.
C'est pas un hasard, l'histoire de l'art. Quand j'étais gosse, à 13 ans, j'étais féru d'astronomie et de botanique. C'est pas pour rien que j'ai fait L'herbium rose et le grand atlas des yeux baissés dernièrement. Mais j'avais compris, et c'est pour ça que j'avais entamé une maturité scientifique, j'avais compris que, très vite, que plus j'apprenais des choses, moins j'étais émerveillé. Donc j'ai laissé tomber la botanique et l'astronomie pour faire des études de lettres en histoire de l'art, parce que j'aimais bien l'art. J'étais très touché, Mélanie, que vous parliez du Larousse avant, parce que c'était ma seule référence iconographique, le Larousse 1921, 2 volumes, où je voyais ces petites photos noir-blanc qui n'étaient pas pour moi des reproductions, c'était des originaux, j'avais aucune idée du Louvre et de tout ça. Bref, je commence l'histoire de l'art et la linguistique, parce que cette mécanique m'intéressait toujours. Et au bout de 2 ans, je me rends compte que plus je sais des choses sur les peintres, l'histoire de la peinture, moins je regarde les tableaux. Donc j'ai... Mais au moment où j'avais ce doute-là, une amie, une copine, qui est au conservatoire à Genève, me dit, écoute, on fait un stage avec un metteur en scène de Paris, je sais plus comment il s'appelait, tu viendrais faire des photos, parce que j'avais un appareil photo comme tout le monde, c'est-à-dire que je savais pas du tout l'utiliser. Je faisais des photos souvenirs. Et je réponds à la fille, je dis oui, volontiers. Je dis, mais pour rendre service, hein, c'était même pas un projet de drague. Et j'arrive au conservatoire.
C'est dire, si ouais, vous n'aviez aucun espoir.
J'arrive dans cette salle, qui est une vraie salle de conservatoire, c'est-à-dire un projecteur tout noir. Et là, devant moi, à l'école, joue Doris Hittig, Katia Marquis, ces gens-là. Et je fais des photographies. En improvisant, je savais juste que quand il faisait trop noir, il fallait pousser les hasards, la sensibilité des films. Bon, enfin, je fais des photos. Je donne les pellicules à développer en noir-blanc. Et je reçois des tirages et je vois là-dedans une image qui me... Le conservatoire était tout à fait satisfait de ce travail. Mais moi, je regarde ça, puis je me dis, mais mon Dieu, mais t'es là. C'est là que tu dois être. Et cette photographie, c'est une Pietà. L'Hebdo avait raconté ça dans son tout dernier numéro de l'Hebdo, parce que ça avait été publié dans les double pages galerie déjà à l'époque de l'Hebdo, ou peu importe. Et 2 semaines après cette révélation-là, je prends la décision d'arrêter l'université pour vivre cette vie de saltimbanque qui m'amène aujourd'hui devant vous.
C'est la photo qui est venue à vous, littéralement.
Non, c'est des photos, c'était la deuxième rencontre avec la photographie. La première, c'était, maintenant qu'on en parle, je me rappelle de ça, c'était à l'école secondaire. Donc on était gosses, le prof d'histoire naturelle nous avait donné à chaque élève son appareil photo un jour pour faire des photos. Une photo que lui révélait après coup. Bon, moi je prends ça, évidemment je ne sais pas le manier. Je me promène autour de chez moi, à Kourou, et tout à coup je vois un chat sur un mur de la ferme à côté. Et elle me dit, tiens, je vais photographier ce chat. Vous voyez déjà, hein, je vais faire une photo de quelque chose. C'est quand même fondamentalement différent de dire, je vais faire une photo. Et je photographie ce chat, sauf qu'au moment où je photographie ce chat saute. Donc, j'ai un mur blanc, puis une traînée noire sur la photo, et j'ai trouvé ça fantastique. Mais je me rappelle, le prof m'avait dit, bon, ben, elle est floue, elle est ratée. Gratuite comme à Migros, quand les photos sont floues. Hein. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et là, c'est facile de dire maintenant, mais peut-être que j'ai réalisé là que la photo était plus forte que son sujet, en l'occurrence. Mmh. Voilà. Donc, j'ai arrêté l'Uni, et puis j'ai commencé cette vie de funambule. La chance fait que c'était à Genève, que je me suis très vite lié avec les photographes qui étaient en place. Et avec tous ces gens-là, on a fondé le Centre de la photographie en 84, en même temps que le Musée de l'Élysée naissait aussi.
Que vous avez dirigé ensuite?
J'ai dirigé le Centre de la photographie entre 95 et 2000. J'ai écrit aussi une revue de littérature et de photographie à cette époque-là. Et puis j'ai appris tout, mais j'ai tout fait. Hein. J'ai fait des catalogues de bijouterie, j'ai fait des portraits, tout.
Très souvent en liant les mots, oui, et les images.
Oui, mais dans la mesure où les mots ne sont pas une explication... J'ai jamais aimé les textes autrement que auto, la photographie.
Pas d'hiérarchie entre les deux.
Pas d'hiérarchie. C'est-à-dire que le texte et l'image doivent s'entraîner l'un et l'autre.
Moi, je reviens à cette histoire de légende. La légende, c'est la photo de presse, la photo du photoreporter. Et vous disiez à l'instant, j'ai étudié la linguistique pour comprendre la mécanique de la langue. J'ai étudié l'histoire de l'art pour comprendre d'où venaient les peintres et les photographes que j'aimais. Au fond, j'ai appris trop de choses et j'ai rien appris. Bon, voilà, rien ne m'imprégnait. Est-ce que vous êtes ceux qui dites que devant un tableau, par exemple, ou devant une photo, une œuvre d'art, une sculpture, quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'avoir l'explication de texte, on n'a pas besoin d'avoir lu le manuel ou la notice, elle nous saisit ou pas? Ou est-ce qu'il faut quand même un minimum pour comprendre ce qu'on a devant les yeux? De quelle école êtes-vous, là?
Je suis de l'école du voir et de ce que le voir peut déclencher plutôt que de conforter un savoir. Voilà. C'est je peux pas dire ça autrement, mais beaucoup de gens, c'est intéressant de savoir que que Psyché découvre Eros sur son lit à la lumière d'une bougie.
Parce que quand on va dans
toute l'histoire mythologique, c'est important de le savoir.
Quand on va dans les musées, y compris les musées de la photo, j'y étais encore à Lausanne il y a peu de temps, on a de la documentation dans les mains, on a 13 pages dans toutes les langues, des machins qui...
On passe 20 minutes à l'entrée avant de voir les photos, à lire.
On a un texte immense en introduction, et au fond, on voit pas les photos.
Non, mais l'attitude des gens dans les musées, c'est pareil. Ils vont au cartel, ils regardent, puis une fois qu'ils ont repéré ce qu'ils ont lu, c'est-à-dire l'anecdote, ils passent. Mais j'ai vu l'année passée, il y avait à la Alte Gemälde Galerie à Berlin, il y avait une exposition des portraits de Frans Hals, hollandais, des portraits de ces hollandais bien rougeaux, bien porcins un peu comme ça, qui sont des portraits de notables ou peu importe.
On croirait du Martine Parr.
Ouais, c'est évidemment, chacun de ces portraits, c'est des portraits de quelqu'un, voilà. Mais si on va planter son nez devant le tableau, et puis qu'on voit par exemple comment est peint la dentelle, comment est peint ce que nous croyons être un velours noir, comment tout ça est peint, et que la personnalité du portraituré disparaît et qu'on est en face d'un émerveillement, c'est terrible. Moi ça m'habite ça, je suis sans cesse étonné encore maintenant... Et je bouffe des images, mais tous les jours. Hein. Non seulement j'en fais, mais j'en regarde beaucoup, et j'arrive pas à savoir pourquoi je suis autant ému par une peinture abstraite de Cy Twombly, par exemple, que devant un Delacroix. C'est fou. Pourquoi une peinture de Delacroix, pour rester à lui, ou de Rubens, qui relate un épisode qui ne correspond plus du tout à notre actualité? Mais que ce soit mythologique ou biblique ou historique, ça ne correspond plus. Pourquoi on reste fasciné par ça? Il y a quelque chose d'autre qui se passe.
Est-ce que c'est important de savoir pourquoi, Alain Numerose? Vous dites, je ne sais pas pourquoi je suis autant ému par Cy Twombly que par Delacroix, mais est-ce que c'est important d'avoir la réponse?
J'ai longtemps cru que c'était important de comprendre les choses. Et je ne suis pas tout à fait guéri parce que je lis encore énormément de l'histoire de l'art et de la mécanique du langage. Il ne faut pas oublier que je suis un adolescent du nouveau roman, c'est-à-dire de cette poésie qui
devient... Ce qu'on appelle roman sans récit.
Roman sans récit, d'une poésie qui n'est plus une poésie psychologique, mais linguistique. On parlait de Ponge avant, c'est pas pour rien. Hein. Donc, cette mécanique des choses. Moi, je reste, par exemple, stupéfait devant une pièce comme Pour un oui, pour un non, de Sartre, ou Sartre, ou Marthe Rode, où tout à coup, les mêmes séquences sont répétées, décomposées. Rob Grier m'emmerde, mais cette structure-là, parce que de la structure naît un autre émerveillement, et je le comprends petit à petit, que simplement comprendre.
Qu'est-ce que ça vous raconte de vous quand vous êtes ému devant Cy Twombly ou Delacroix ou Rubens?
J'ai l'impression que ça développe, non pas que ça développe, que ça révèle une vue, une présence au monde ancestrale, sinon animale. C'est-à-dire que je suis persuadé que ma mémoire est plus vieille que mon histoire. Autrement dit, je parle pas simplement une langue maternelle, mais je parle une langue natale, c'est-à-dire celle d'un pays, d'une structure qui est beaucoup plus vieille que nous. C'est pour ça que j'explique que si on est tellement fasciné encore maintenant, tout le monde veut une cheminée dans son salon, mais qu'est-ce qu'on en a faire d'une cheminée, j'en ai plus besoin de flamme, on est tous bouche bée devant ça, on a toujours peur de l'orage. Donc c'est cette mémoire-là. Et visuellement, peut-être que c'est ça que ça révèle.
Est-ce que vous irez jusqu'à croire en la métempsychose, la réincarnation, ce genre de choses?
Non, ça je m'en fous, c'est pas mon problème.
Non, mais moi je vous pose la question, parce qu'on peut, vous étiez peut-être un chat, un arbre dans une autre vie.
Si je crois à la métempsychose, c'est par un principe purement physique, c'est Lavoisier qui dit rien ne se perd, rien ne se crée. Donc oui. Voilà, il y a une énergie qui cesse, elle doit bien aller ailleurs, mais j'en fais pas tout un plat, je suis beaucoup trop immédiat, absolu et sensible et sensuel pour penser à tout ça.
Retour à la musique pour vous, Alain Numerose. Jacques Higelin, L'hiver au lit à Liverpool.
Fantastique.
Bah, c'est l'été caniculaire dans l'enfer idyllique des bords de mer. Refoulé par la foule, au fond des criques, si j'ai pas le choix d'accord, mais si on l'a, je préfère encore passer l'été au Labrador, à faire des loufoqueries, des folies de mon corps, au soleil de minuit, imbibé d'aquavite, tout nu sur la banquise, entre deux inuits exquises, la chair enduite de graisse de phoque. Classe. Au volant de ma deux chevaux. Passer l'hiver en Mongolie, à traquer le yéti, piétiné par les yaks, sans anorak, les doigts gelés, le nez qui coule, les dents qui claquent. Y en a que ça fait bander, mais moi personnellement je craque pour passer un hiver hyper cool, sans cagoule et sans poule, over. Loin des stations de ski, moi et ma petite poule, on préfère passer l'hiver au lit, blotti comme de pivert, l'hiver au lit à l'hiver, poule. Bam-ba-da-di-da, ba-lam-da-da-da-da-da, flam-ba-da-da-da-da-da-da. Passer l'hiver au lit, blotti comme de pivert, l'hiver au lit à l'hiver, poule.
Jacques Higelin, on parle de Jacques Higelin dans un instant avec Alain Numerose, mais il nous faut partir de toute urgence sur la route.
Infotrafic RTS.
Quelle que soit votre direction, soyez prudent. Si vous circulez sur l'autoroute Vevey-Martigny, on signale des piétons sur la chaussée entre Saint-Maurice et le relais du Grand Saint-Bernard. Alain Numerose, qui est un peu dissipé dans notre studio, en train de faire des pieds de nez, littéralement, derrière la vitre à quelqu'un. Mais comme il est dans mon dos, je ne vois pas de qui il s'agit.
C'est Pascal Bernheim.
Ah, c'est Pascal Bernheim.
Ben oui, parce que vous avez exposé ensemble dans la cabinerie, qui est votre galerie.
Alain notre Numerose, ami Pascal Bernheim, qui bon, ben, il a qu'à venir. Voilà. Mm-hmm. Alain Numerose, on écoutait Jacques Higelin et vous nous racontiez une anecdote savoureuse à son propos. Je vous propose de la raconter là, en direct.
Oui, rapidement, j'étais à un concert d'Higelin et à la fin du concert, je voulais le rencontrer et je fonce dans les loges. Et sa porte de loge était vraiment fermée, cerbérisée, enfin pas moyen de graisser la patte à qui que ce soit pour le voir. Et je frappe contre la porte, pas de réponse, je frappe une deuxième, même une troisième fois et tout à coup, Higelin entrebâille la porte et je dis bonjour, j'aimerais bien vous voir, discuter. Et puis non, dégage. ça va pas. Puis je dis si j'aimerais bien, non mais je suis pas en forme, j'ai fait un concert de merde, c'était pas bien, je suis pas content avec moi. Et moi je lui dis mais justement c'est parce que c'était pas terrible que j'aimerais bien qu'on discute. Et il m'ouvre la porte.
Oui.
Et
on
papote de ça, de cette ça, on demande aux artistes d'être performants tout le temps, mais les artistes maintenant ne peuvent plus se tromper, quoi. Qu'ils fassent de la chanson, de la photo,
Avec l'intelligence artificielle maintenant, et l'autotune, on n'a plus besoin de savoir chanter.
Hélas, et heureusement encore, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la cosmétique. Au bout d'un moment, on ne voit que ça.
C'est vrai.
Donc, et Higelin, voilà, on se rencontre, et il me dit, écoute, demain, je dors à l'hôtel de l'Angleterre, viens déjeuner, et puis, le matin, j'ai été déjeuner avec lui, j'ai montré des portraits de cette série dont on parlait avant, des grands centièmes de seconde, et il est immédiatement parti à vouloir faire des chansons avec, mais hélas, le temps a été plus court que prévu.
Il est parti trop tôt. Ouais. Alain Numerose et Émilie Gasse qui vient d'entrer dans le studio, je vous propose qu'on se retrouve dans un instant, on doit repartir sur la route.
Infotrafic RTS.
Quelle que soit votre direction, soyez prudent. Si vous circulez sur l'autoroute Vevey-Martigny, on signale toujours des piétons sur la chaussée entre Saint-Maurice et le relais du Saint-Bernard et également sur l'axe Lausanne-Vevey entre Lausanne-Vennes et Chèbre.
Émilie a une question et tout le monde y répond.
Et tout le monde y répond.
Salut Émilie, vous êtes là aussi en cette ascension.
Mais je suis toujours là, moi, vous avez remarqué. Salut tout le monde donc. Et les gens aussi sont là et répondent aux questions. C'est pas la première fois qu'on nous reçoit un photographe, donc il y en a eu plusieurs, des questions.
On adore les photographes.
Et celle du jour, j'ai demandé, mais qui aimeriez-vous prendre en photo?
Je suis pas plus photo que ça, donc je sais pas, mais... je sais pas. Ma grand-mère. Je sais pas, je trouve qu'elle a un truc très photogénique, très expressif. Voilà.
Est-ce que c'est une petite grand-mère avec des cheveux moussus blancs ou pas du tout?
Mec a un bon caractère, donc ça lui fait perdre cette...
cette douceur nuage.
Voilà.
Qui aimeriez-vous prendre en photo?
Je sais pas, Barack Obama.
So in love with you. Quelle idée.
Moi, je sais pas, quelqu'un d'un peu inaccessible.
Ah, je suis plus nature. Prendre des photos de la nature. La montagne, la forêt. Prendre les fleurs en photo.
Je peux changer de réponse.
Oui, oui.
J'aimerais bien prendre en photo mes grands-parents. Avec moi. En genre en selfie ou qu'on soit pris en photo ensemble. Parce que je viens de perdre mon grand-père et c'est quelque chose qui me manque. Je suis pas sûre d'avoir des photos de récentes avec lui et j'aimerais bien en avoir une.
Bon, on se l'imagine.
Oui, voilà. Il était généreux, il était avocat, spécialiste des divorces et il prenait toujours la défense des femmes.
Bon, on l'imagine très souriant, chaleureux et beau sur la photo.
Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Et en costume, il était toujours en costume.
Qu'est-ce que c'est? C'est une ombre. Pam, il a volé ton ombre.
Quel jeu merveilleux.
Qui est-ce que vous aimeriez prendre en photo?
Mes parents. C'est-à-dire que je les vois. C'est-à-dire que je pense à eux et je ne le fais sûrement pas assez souvent.
Si vous imaginez pouvoir les prendre en photo, là, ils seraient comment?
Ils seraient... naturels. Je ne pense pas que j'arriverai à faire poser mes parents. Il faudrait que ça soit... pris sur un instant de vie... Avec ma petite nièce, peut-être qui a 4 ans, qui les rend. On se demande si c'est qui a 4 ans quand ils sont ensemble entre les grands-parents.
Qui est-ce que vous aimeriez prendre en photo?
Ma meilleure amie qui est décédée d'un cancer. Je l'aimais beaucoup, on était comme deux sœurs. Et puis on a fait beaucoup de voyages ensemble, on se prenait en photo l'une et l'autre. Et c'est des beaux souvenirs qui me restent. Voilà.
Vous aimeriez encore prendre une photo d'elle?
Oui, mais comme elle était, c'était une personne qui aimait beaucoup rire et qui avait un rire très particulier. On la reconnaissait tout de suite.
Qui est-ce que vous aimeriez prendre en photo?
Michael Jackson.
C'est un peu tard.
Oui, mais malheureusement, ce serait en tout cas une de mes envies, hein, parce que ça reste quand même un grand personnage.
Et vous feriez quelle photo?
Ah, selfie avec lui.
Ah. Qu'est-ce que vous aimeriez prendre en photo?
Le bonheur. Mais c'est pas possible.
Il y a des photos qui évoquent le bonheur, non?
Toutes mes photos évoquent le bonheur.
Oh, c'est souvent ça, hein. On prend rarement les photos du malheur.
En fait, je crois pas qu'il y ait vraiment de malheur, c'est juste une question d'état d'esprit.
Qu'est-ce que vous aimeriez prendre en photo?
Tout le monde, j'adore les portraits.
Vous les aimez comment, les portraits?
Naturel et spontané, et de préférence en noir et blanc.
Qui aimeriez-vous prendre en photo?
Mes élèves, parce qu'ils veulent jamais.
Mes élèves avec un vrai sourire.
Bah alors les élèves, allez, on fait un sourire. Qui aimeriez-vous prendre en photo?
Meryl Streep.
Oh.
Oui, elle est absolument incroyable. Donc j'adore cette actrice et je pense qu'elle est très charmante, très intelligente. C'est quelque chose qui me fascine, une personne qui me fascine.
Et vous aimeriez la prendre en photo comment?
Robe rouge et noire.
Je sais pourquoi je pense au pape, j'ai aucune idée. Mais je pense au pape, ça doit être l'actualité, mais je pense au pape. Non, alors vraiment, attention, hashtag big fan. Prendre en photo, donc être juste devant Tom Cruise, avec plaisir.
Ah, mais grand fan.
Premier degré.
Et vous le prendriez en photo comment? Tom Cruise, donc.
Comme il le fait tout le temps, c'est-à-dire en contre-plongée pour avoir l'impression qu'il est grand, alors qu'en fait, il ne l'est pas, quoi. C'est comme il est filmé, quoi, en fait. Mais voilà.
Ah, vous lui feriez plaisir, quoi.
Ah bah, j'espère, si je fais un rendu tout pourri. Alors si, il peut avoir le gars à côté, le fan, avec son pouce levé, à savoir moi. Mais voilà, les belles photos de Tom Cruise, c'est la chemise un peu ouverte, les cheveux au vent, etc. Premier degré, girly à mort, fan.
Ah mais je partage. Qui aimeriez-vous prendre en photo?
Vous, tiens.
Oh mais moi.
Bah voilà.
Mais non, mais vous me voyez assez dans la rue, moi.
Oui,
c'est vous la connaissez ma tête avec toutes ces questions.
Bah oui.
Émilie, qui aimeriez-vous prendre en photo?
Ah bah, mes trois filles, parce que les premières sont grandes, elles sont un peu partout loin, et j'aimerais bien les réunir. Là, maintenant, franchement, j'aimerais bien les réunir et puis les prendre
les trois
ensemble.
C'est-à-dire les trois ensemble. En même temps,
c'est oui,
ça, hein,
les trois ensemble.
Pas une ouais. après l'autre, mais les trois en même temps.
Voilà, les regrouper et puis les prendre en photo. Mais j'ai trouvé très touchant parce que beaucoup, beaucoup de personnes pensaient à des proches décédés qu'ils regrettent et qu'ils voudraient encore immortaliser sur une photo. C'était une réponse qu'on m'a beaucoup, beaucoup donnée.
Et on dit immortaliser hein.
Ouais. Vraiment.
Nous sommes toujours avec un photographe, Alain Humerose, le photographe Alain Humerose.
Oui, qui n'a rien écouté.
Si.
L'ambiance est très dissipée ici.
Mais attendez, il a été dissipé.
Il y a beaucoup de joie.
Il a été dissipé par l'arrivée de son ami, on l'a signalé il y a un instant, Pascal Bernheim, qui est avec nous et pour lequel on a ouvert un micro. Parce que quand un Pascal Bernheim arrive comme ça ou tourne autour d'un studio, on a envie de lui dire de s'installer autour de la table.
Mais il est même pas, vous ne m'avez même pas dit, je suis venu d'autorité.
C'est vrai, vous êtes venu d'autorité.
J'ai dit, un micro. Voilà. Ça me manque.
Vous avez exigé un casque, un micro, on vous l'a donné.
Salut.
Salut.
Visiblement, vous connaissez Pascal Bernheim, évidemment, homme de radio, mais photographe aussi, Pascal.
Ça m'arrive, oui.
Ouais.
Ça m'arrive, effectivement.
Beaucoup de photos, même.
Beaucoup
de noir et blanc.
Pas mal, oui. Mmh. Ça dépend, en fait. Parce que Alain disait tout à l'heure qu'une photo, c'est jamais une narration. Moi, je dis exactement le contraire.
Ah, vous êtes pas là. On peut faire un débat, là.
Oui, non, quand même pas.
J'en ai un autre, parce qu'Alain a tiqué quand il a entendu quelqu'un dire qu'il voulait photographier le bonheur et que j'ai souligné qu'on prend rarement les photos du malheur. À part la presse.
Ah ben c'est une question qu'on a posée en début d'émission.
Disons, c'est Robert Franck qui soulevait l'histoire en disant
pas de photo heureuse,
dites-moi, est-ce qu'il existe une photo heureuse, c'est quoi ?
On y a répondu en début. Vous y avez répondu en début d'heure.
Bah, c'est-à-dire qu'une photo, une photo peut être heureuse de plusieurs manières. D'une part, elle est heureuse parce qu'elle montre quelque chose d'heureux, mais elle peut être heureuse comme un jeu de mots peut être rigolo, c'est-à-dire que l'image elle-même peut être heureuse, c'est-à-dire qu'elle peut être fraîche, on peut avoir une photo de si je pousse le bouchon très loin, on peut avoir une photo de guerre qui peut être très fraîche, donc il faut savoir de quel bonheur on parle. Maintenant, une photographie, je pense pas qu'il y ait beaucoup de photographies de bonheur, comme c'était dit. Parce que d'emblée, quand la conscience d'être pris en photographie est là, il y a un sérieux, pas forcément une tristesse.
Une gravité
qui s'installe et qui met un frein à ça. Et c'est pas en faisant sourire bêtement les gens qu'on apportera du bonheur.
Alors on revient au débat qui était en train de naître autour de la table. Pascal Bernheim, vous postulez qu'une photo est une narration.
Mais j'aimerais au moins qu'elle la suggère, cette narration, dans la tête de la personne qui regarde la photo. Moi, si une photo me raconte rien, elle m'intéresse pas. Voilà.
Peut-être qu'au fond, vous dites la même chose que vous disiez à Alain Humerose, c'est que c'est un moment et qu'on invente l'avant et l'après.
Bien sûr.
C'est ce que vous dites aussi.
Moi, je ne crois pas du tout.
Ah, mais
non,
c'est génial.
Il y a une grosse différence, en fait, entre Pascal et moi. C'est que
d'abord que moi, je suis jeune.
Voilà.
Et que vous n'avez pas de casquette.
Et que moi, je suis retraité.
Tu as le respect.
Non, mais je crois que la
vous
différence qu'il y a...
une année de différence, une année ou deux, hein, oui. Des jeunes sexagénaires.
Oui, mais il me doit le respect.
D'accord.
Oui.
Bon. Alors, la narration.
Je pense la grosse différence dans la pratique photographique entre lui et moi, c'est que lui raconte des histoires. Il demande à lire et moi je fais des images. Il fait des histoires, je fais des images. La différence, Il est d'accord. Elle est minime.
Bien sûr.
Moi, si j'ai simplement quelque chose, si je fais une image simplement pour raconter une histoire, que je ferais moi, ça me tanne. J'ai pas envie. Il faut qu'il y ait du sucre en plus, quoi. C'est d'ailleurs pas pour rien. On a une pratique avec Pascal depuis maintenant 3 ans.
Oui.
On se fait un ping-pong quotidien de photographies. On s'envoie chacun une photographie. Parfois un peu plus, mais souvent.
Une que vous avez prise vous ou une autre photo?
Non, et une photo du jour.
Une photo, si possible, du jour. Des fois, on triche un peu.
Il y a de temps en temps des archives.
Qu'on envoie qu'à l'un et à l'autre.
On me prise par vous-même. Chou, les deux.
Prise par nous-mêmes, oui. Ouais.
Oh, vous êtes trop mignons. C'est adorable.
Et c'est dans cette pratique-là, on sent très bien ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce besoin de mots qu'a Pascal, que moi je n'ai pas du tout. D'ailleurs, ça se remarque souvent dans la réaction. Souvent, quand j'envoie une photo, Pascal me répond avec une légende. Il m'envoie un mot, il m'envoie un texte. Pas simplement qu'il trouve ça génial, fantastique.
Pourtant, vous êtes autant bavard l'un que l'autre.
Non,
c'est assez marrant.
Alors justement,
il n'écrit pas juste « bravo maître
». Ouais, dans toutes les langues. Mais alors que moi, j'envoie rarement de commentaires, parce que j'ai pas de commentaires à faire, si ce n'est c'est super ou c'est pas bien, mais j'ai j'ai pas et je ne veux pas avoir cet accès que tu as aux mots directement.
Oui, alors mais c'est, avec toi, je fais un effort particulier.
On va laisser répondre quand même, hein, pour sa défense.
C'est que je ne mets pas de légende à mes photos, ce que je fais à peu près systématiquement. Je mets pas de légende, pas de description, rien dans ce que je t'envoie. Parce que je sais que ça t'énerve. Et puis, je me dis aussi, c'est intéressant ce qu'il dit, quand même. La photo se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin des mots en plus. Bon, moi, j'ai une histoire avec les mots quasiment en même temps qu'avec des images.
Bon, puis c'est un peu votre métier
bien,
aussi.
J'aime bien les deux en même temps.
C'est un peu votre métier de dire des mots. Hein. Vous avez fait ça toute votre vie.
De les écrire.
Pas beaucoup de photos dans votre métier radio.
Bah, j'en ai fait un petit peu quand même, mais voilà quoi. Mais je les ai gardées pour moi.
Cette différence, on a parlé juste tout à l'heure de légende. Hein. Je disais qu'aux légendes de la photographie, je préfère des photographies de légende.
J'ai entendu ça.
Cette formule est tellement bonne qu'il faut la redire.
À la Numerose, il y a un instant, vous êtes levé du studio. C'est la raison pour laquelle vous étiez peut-être un peu dissipé, comme le disait Emily.
Il dansait même.
C'était pour la bonne cause, parce que vous avez saisi votre téléphone portable pour prendre une photo du studio, des gens qui sont dedans, etc. Qu'est-ce que cette petite console numérique qui est là dans nos mains depuis 15 ans a changé à l'art de la photographie pour vous?
Alors, elle a surtout libéré mon dos de 20 kilos de matériel.
Ah oui.
Non, moi, je travaille plus qu'avec ça.
Vous ne travaillez plus qu'avec un téléphone?
Oui, j'ai tout liquidé, Champsinar, Hasselblad, Leica, tout ça, c'est loin.
Ne travaillez plus qu'avec un téléphone?
Ouais. Sauf quand il faut, mais je fais plus ça depuis un moment, quand il faut réellement composer un éclairage mixte entre éclairage naturel et éclairage artificiel, parce qu'on déclenche pas une batterie de flash avec ça.
Mais ça veut dire que techniquement, c'est aussi bon qu'un appareil à plusieurs milliers de francs?
Mais...
Ou que la question n'importe peu.
Cher Simon, cette question ne vaut rien parce que...
J'adore qu'on me dise ça. J'aimerais que la réponse soit valable.
C'est comme si vous avez un jardin et puis que vous dites finalement, vous préférez une hache ou une tronçonneuse. Si vous n'avez pas d'arbre à abattre, la question, elle est ridicule.
Technique, elle a été importante en photographie.
Mais moi, je m'en fous de la question technique.
Ah, mais ça, c'est une bonne réponse. Alors.
Parce que j'en ai fait. Je dis, j'ai passé 6 ans de ma vie en chambre noire quand même.
Pourquoi vous avez le Capitaine Haddock sur votre t-shirt en fait, depuis le début. Mais quelle tête de mule!
Il n'a pas juré encore. Ces appareils. Il faut savoir que le Capitaine Haddock a les mêmes initiales que moi. Il s'appelle Archibald Haddock.
On s'éloigne un peu. Revenons sur l'absence de technique. Au fait, la question technique... pour vous n'est pas importante. Il faut se libérer de ça.
Oui, mais c'est facile à dire parce que moi, je peux me libérer de la technique parce que je l'ai. Je sais comment utiliser ça.
Vous maîtrisez tout.
Jusqu'au bout, quoi. Mm-hmm. Quand je disais tout à l'heure, la première heure, que je sais comment est fait une photographie, et quand je dis que j'ai passé 6 ans de ma vie en chambre noire, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est dans le papier, on est dans la fibre du papier là, on est dans des vraies petites secondes de lumière, on n'est pas dans une narration.
Pas dans les donc, 7 secondes qu'on peut
avec ça. Et maintenant nos appareils totalement électroniques, on oublie de dire que c'est une composante de la fabrication des images, parce que si on n'a pas la suite qui va avec ça, c'est-à-dire les logiciels qui vont avec, on est perdu. C'est pour ça que la majorité des photographies qui sont faites avec ça utilisent des filtres qui sont envoyés exprès parce que ça rend content les gens qui utilisent ça. Mais si on a des exigences supplémentaires puis qu'on sait utiliser les outils que sont Photoshop, mais Photoshop, c'est un laboratoire plus rapide, hein, mais on fait la même chose avec Photoshop qu'on faisait en chambre noire, faut pas se leurrer là-dessus.
Donc à part le poids, ça n'a rien changé.
Ça n'a rien changé. Et j'aimerais quand même insister là-dessus, c'est que le Photoshop et les logiciels n'ont rien inventé, c'est un travail plus rapide. Et c'est pour ça qu'il faut cesser, il faudrait cesser de parler à tout bout de champ de retoucher une photographie. La photographie se retouche depuis qu'elle existe. Depuis 1839, la photographie se retouche. C'est-à-dire que quand vous avez un négatif ou un fichier, vous avez un document brut. Mmh. Mais il faut bien l'interpréter, il faut bien savoir quel contraste vous allez mettre là-dedans, quelle colorimétrie vous allez mettre. Je prolonge encore un petit coup, parce qu'en 1839, un mec qui s'appelle Hippolyte Bayard trouve un système de capturer la lumière. Et là, son projet arrive 6 mois après que l'Académie ait acheté à Monsieur Daguerre le brevet et ait rendu la photographie libre de droit.
Les fameux daguerréotypes.
Voilà. Et l'Académie répond à Bayard, lui dit, mais mon pauvre, non, on va pas vous acheter votre brevet, quoi. Et que fait ce charmant garçon? Face à cette réponse, il se photographie comme si on venait de le repêcher noyé dans la Seine. Et il joint une lettre disant « Puisque vous ne reconnaissez pas mon invention, vous me condamnez à la misère, donc à la mort, donc je préfère en finir tout de suite. » On est en 1839. Cette photographie, premier autoportrait de l'histoire de la photographie, si je ne m'abuse, est un fake. C'est-à-dire qu'il s'est noirci les ongles et les lèvres pour qu'il ait l'air d'un noyé. Et le même Hippolyte Bayard, toujours à la fin 1839, organise la première exposition de photographie au monde, c'est-à-dire à Paris, et lui-même montre une photographie d'un paysage qu'il a fait du port de Nantes. On voit des barques au premier plan, très noires, avec un ciel charbonneux, fantastique, sauf qu'il faut savoir que cette photographie a été faite à Nantes, mais quand elle était à Nantes, le ciel était bleu. Splendide. C'est donc courrier. Il a greffé des nuages qu'il avait photographiés à Paris des mois avant.
Cessant de se scandaliser.
Et donc c'était il y a 150 ans, quoi.
Pascal Bernheim, juste avant d'écouter Roxane, Pascal Bernheim, vous, le smartphone, c'est aussi votre outil de travail maintenant?
Mais bien sûr, parce que ces histoires techniques, effectivement, il faut savoir utiliser les outils. Mais ça me rappelle cette histoire du photographe qui va bouffer chez une copine et tout. Il mange vachement bien, puis il lui montre des photos. Il dit, oh putain, elles sont vachement bien. Je m'excuse, je parle un peu grossièrement. Elles sont vachement bien des photos, tu dois avoir un super matériel. Et il lui répond, oui, mais toi, ce que tu as fait à manger, c'était excellent, tu dois avoir des super casseroles.
Mais c'est exactement
la même chose. Quoi. C'est pas les casseroles ni les appareils de photos qui font les photos.
On peut avoir les meilleures casseroles ou le meilleur appareil et faire des trucs nuls.
Mais du coup, vous retouchez mes cernes, mes rides sur les photos que vous avez prises alors, librement.
Non, on rajoute.
Retoucher, ça veut dire transformer quelque chose.
Non, mais vous le faisiez, on le fait tranquille.
Vous m'en allez, ça. musique. Rain on my parade, c'est Roxane et c'est suisse, paraît-il. C'était Roxane, une Suissesse, Rain on my parade. Il nous reste une douzaine de minutes en compagnie de notre invité Alain Humerose. Invité surprise Pascal Bernheim, vous avez le droit de rester avec le casque et le micro.
Vous êtes gentil.
C'est plaisir de vous revoir.
Ouais, ça va, t'as pas du lait sur le feu là?
De quoi? Non, j'ai des photos sur le feu.
Ils sont touchants.
Ils attendront.
Ouais. On rappelle l'exposition, l'avez-vous vu Pascal, l'exposition au musée des grenouilles à Estavayer-le-Lac sur le Tarl,
Bien sûr, je l'ai vu, c'est absolument sidérant ces photos. C'est à chaque fois, on a l'impression de partir dans le temps, et à chaque fois, on se dit, ça, cette chose terrible a existé, et en même temps, on n'arrive pas à dater la photo en la regardant, parce qu'il a fait un traitement de l'image qui lui donne un côté peut-être vieillot.
On dirait enfin, du sépia, hein.
On dirait, oui, il y a un peu de sépia, mais c'est pas un côté vieillot. Mais enfin, c'est un traitement assez brut comme ça, assez déconstruit, et ça rajoute au drame. Et en même temps, bah, c'est juste des arbres qui sont tombés. Alors c'est terrible, ça fait pleurer Idéfix et tout ça. Mais je veux dire, c'est en même temps, c'est une forêt qui vit, qui meurt, qui a subi la force de la nature. Et ce traitement, enfin, il en parlera mieux que moi, probablement.
Je crois qu'il souhaite répondre. D'ailleurs, il a levé la main. Oui, Alain Dumerose.
Il est bien éduqué.
Il est poli.
On sait pas. Elles sont pas datées ni datables. J'ajouterais qu'on ne sait pas non plus l'heure de la journée ni la saison. C'est pas repérable, parce que pour moi, c'est extrêmement important de. Quand on parle de photographie, on parle toujours de référence. Et le référence, c'est souvent, comme j'ai dit avant, l'anecdote. Pour moi, une photographie, elle entre en référence avec toute l'histoire des images qu'on connaît depuis toujours. Or, l'imagerie, l'iconographie des contes et légendes, qu'on a tous, que ce soit sous forme de gravure, sous forme de peinture, sous forme de photo, dessin, peu importe. Pour moi, dans cette série-là, par rapport à ce que j'ai dit avant de cette cassure dans la notion de patrimoine et de tradition, c'était extrêmement important de m'engouffrer, non pas simplement dans la référence de la catastrophe, mais dans l'iconographie des contes et légendes. Donc il fallait trouver quelque chose, d'où le choix d'un papier, effectivement texturé et tout ce qui a été dit, pour que cette lumière ne soit pas une lumière épisodique d'un vent qui a saccagé une région, mais qu'elle soit une lumière d'où essaie encore de respirer tous les héros dont on parlait.
C'est vrai que c'est la forêt de Brocéliande qu'on voit sur vos photos.
Mais c'est la forêt de Brocéliande qui en a pris quand même un sacré coup. Hein.
Ouais. Mais qui a une autre lumière, vous nous le racontiez ça. Parce que quand la photo est, quand la forêt est debout, évidemment la lumière a de la peine à la pénétrer.
Il fallait que ces images de forêt nées de cette catastrophe soient des images de la forêt. En général. C'est-à-dire, je l'ai dit avant aussi, à la fois un lieu d'initiation, le lieu où les hors-la-loi, comme les princes, se cachent, et tout ça n'existe plus. On n'a plus qu'une scène dévastée, mais quelle scène ? C'est ça, l'histoire.
Et ce qui est très frappant dans ces photos, c'est que quand on voit un homme ou une femme, enfin un humain ou un animal déraciné, mort, généralement, il y a du rouge. Et lui, il a travaillé les contrastes qui font que le sang des arbres, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas des arbres généralement avant qu'ils tombent, c'est blanc. Mais c'est blanc, blanc, dans des univers assez sombres. Oui. Et là, on voit rouge.
Oui, dans tous les sens du terme.
Voilà.
Alors que c'est blanc.
C'est, oui. c'est à voir au musée des Grenouilles à Estavayer-le-Lac, je le rappelle, jusqu'au 7 septembre. Vous avez.
Alors la grenouille n'est pas le symbole de ça.
Ah, pardon, j'ai dit une bêtise.
Non, alors. Non, non, c'est, ça l'est devenu grâce à ce monsieur qui fabriquait ses grenouilles au 19e
ça
siècle.
Ça n'a rien à voir.
Mais le symbole d'Estavayer, c'est la rose.
La cité de la rose. Oui, vous avez raison. C'est la cité de la rose. Merci, Pascal. Vous avez bien fait de venir, Pascal Bernay.
C'est pas la rose grenouille.
Mais c'est pas la cité d'Humerose.
Aussi. Oh, c'est joli. Alain Dumerose, vous êtes l'auteur de plus d'une quinzaine de livres monographiques. Je me souviens de celui-là, c'est pas si vieux, il y a 3-4 ans. Le Grand Atlas des yeux baissés, vous photographiez le macadam, le bitume, et qui apparaît sous nos yeux comme des cartes de géographie complètement fantasmagoriques. Est-ce que ça se poursuit, ça? Vous en aviez tiré un bouquin de 200 pages, mais est-ce que c'est ouvert encore? Est-ce que ça se poursuit, ce travail photographique?
Le livre existe, les expositions continuent aussi. Il y a une exposition prévue l'année prochaine à Toulouse. Et ça a été exposé déjà dans plusieurs musées et galeries, ça continue. Mais je ne suis pas du tout très stratège pour organiser des expositions, j'attends un petit peu qu'on m'invite. Donc,
mais vous aviez parlé d'un deuxième chantier tout à l'heure, quand vous parliez de ce chantier des couples et des femmes.
C'est vrai.
Vous
avez fait il nous reste 7 minutes.
Oui. Non, il nous reste 2 minutes parce qu'après on doit passer un disque.
Mais non, on n'est pas obligé.
On en parlera là une autre fois.
Alors vous revenez quand?
Quand vous voulez.
Bah, vous revenez à l'année prochaine ou en fin d'année
Si Dieu nous prête vie.
Ah bah oui, écoutez, on n'en sait rien. Faites attention à moto, notamment. On vous a vu, on en a parlé. Non, alors j'aimerais bien qu'on écoute cette chanson parce que c'est vous qui l'avez choisie.
Oui.
C'est Eduardo Falú, chanteur argentin, si je ne m'abuse.
Oui, oui.
Voilà. Tiempo de partir, je l'ai mise à la fin parce que
partir,
voilà, c'est comme ça.
Thank you.
puede importar después de todo el trance de partir si yo he logrado llenar cada minuto transcurrido con un claro vivir enamorado? Si la vida no fue en definitiva solo un motivo para haber amado. ¿Qué me puede importar el corto tiempo que resta por vivir si la jornada tiene un punto final ya establecido y la vida es la muerte demorada? Si hay un tiempo de amar que yo he vivido y otro de soledad, olvido y nada. Tras los cerros de Apoyo.
Eduardo Falou, on va le laisser en fond sonore. Alors racontez-nous votre lien à lui, Alain Nimrose.
J'ai eu la chance de... Je connaissais Falou avant mes premières expositions en Argentine. Et une fois que j'étais là-bas, j'ai eu le bonheur d'exposer souvent là-bas, une amie me dit, voilà, il y a peut-être la possibilité de rencontrer le maître. Elle me donne un téléphone, j'appelle et j'ai Falou au téléphone. Hein. C'est comme si je vous disais, tiens, demain vous téléphonez à Jean Aznavour, si les étés... Bah, bref. Et je dis à Falou, voilà, j'aimerais vous rencontrer, j'ai une exposition ici. Et le vieux Falou, avec cette voix, me dit, si, claro, por qué no.
Pourquoi pas, oui.
Et trois jours plus tard, je rencontre Falou, qui était déjà un vieil homme, et je lui montre ce film, cette projection que j'avais fait pour le MAMCO, qui s'appelle Les Grands Centièmes. C'est des portraits de femmes et des paysages. Et il regarde ça, et il me dit, fantastique, tu peux utiliser toute ma musique comme tu veux. Tu peux l'apprendre.
Ah oui.
Pas mal, non? Eh, c'est beau.
Ça s'invente pas.
Hein. Ouais.
Et entre après, Jacques Higelin tout à l'heure, ouais. Et Falou aujourd'hui.
Et plein d'autres choses comme ça, des petits moments.
Faut y aller au culot dans la vie, hein. C'est aussi la morale de l'histoire. Ouais. Dans la passion, le culot, mais enfin, ouais. L'un va avec l'autre, quoi.
Oui,
il y va au culot, mais avec un tact et une politesse qui force le respect. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui vont au culot en gueulant, lui pas.
Et avec une sincérité aussi.
Et totalement.
Quand on dit à Higelin, c'est pas terrible.
Mais non, parce que, comme on le disait avant, on n'a pas de jour pour essayer de vivre. Et si j'ai encore le temps, on parlait de Robert Franck avant.
Il reste une minute de la chanson de Falou, et encore une minute à la Numerose.
On parlait de Robert Franck avant. J'avais demandé à Charles-Henri Favreau de me dire quand Robert Franck venait pour découvrir son exposition. Et Favreau m'avertit, il me dit, voilà, Franck arrive demain, et le lendemain, je vais. Et je découvre l'exposition de Franck avec Favreau, et on n'était que les trois. Et je photographiais avec une courte focale, donc j'étais proche de Franck, des portraits. Hein. Et Franck, au bout d'un moment, se retourne, c'est un caractériel sévère. Hein. Il me dit, mais vous pouvez pas arrêter. Et moi, je le regarde dans les yeux, comme ça, 15-20 secondes, c'est long. Hein. Et je lui dis, non, je peux pas arrêter. Et il y a de nouveau 15-20 secondes qui passent, et là, il me fait un large sourire, puis il me dit, ok, continue. On parlait exactement, toute modestie gardée, on parlait la même langue, c'est-à-dire qu'il y a tout à coup une urgence de photographier, de passer par là, sinon c'est à péril.
Attendez, là on est aux confins du spirituel, mais malheureusement c'est la fin de l'émission. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Pascal Bernheim, vous venez quand vous voulez, vous connaissez l'adresse. Hein.
Mais oui, mais je ne vais quand même pas m'imposer.
Je ne le laisserai pas venir tout seul.
Ce micro a une plaque à
votre... Je viendrai avec Alain.
Absolument. Et Alain Nimrose, merci. Musée des Grenouilles, dont on a appris que ce n'était pas l'emblème d'Estavayer, mais la rose. Mais ça va avec Alain Nimrose. C'est jusqu'au 7 septembre, votre travail sur le tard. On embrasse Sophia Muller qui était derrière la vitre. Dans un instant, c'est Vertigo. Peut-être un mot de demain, puisque nous sommes jeudi, Mélanie.
Oui, demain, nous serons avec Daniel Rohrbacher qui a rencontré un ours polaire.
Oui, pas qu'un d'ailleurs, oui, ouais. Il a eu assez peur.
Il a fait pas mal d'expéditions dans le Grand Nord, il va nous raconter tout ça.
On se réjouit de l'accueillir, allez, on part sur les routes.
Infotrafic RTS.
Sur les axes
suivants.
Attendez, il faut que je donne la route, pardon. Sur les axes suivants, le danger lié à la présence de piétons est écarté sur l'autoroute Vevey-Martigny entre Saint-Maurice et le relais du Saint-Bernard et sur l'axe Lausanne-Vevey entre Lausanne-Vennes et Chèvres. Sur la route d'accès au Grand Saint-Bernard, il faut compter avec un retard d'une vingtaine de minutes à partir de Bourg-Saint-Pierre en direction de l'Italie. Sur l'axe Genève-Ost, l'attente au péage français du tunnel du Mont-Blanc est estimée à 1h30. Sur l'axe Lucerne-Cassou, un bouchon s'étend sur 9 km entre Erstfeld et l'entrée nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin, ce qui correspond à une attente d'une heure et demie environ.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Pierre-Philippe Cader, je crois que vous êtes dans mon dos.
Mais oui, exactement, je suis dans votre dos.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Je vous ai vu.
Oui, on attend, le petit Pascal est attendu au studio A pour la suite de ses aventures.
On va plus voilà. Vous laisser repartir, Pascal Bernheim.
Il arrive, il a cours.
J'ai perdu la carte, de toute façon, je peux plus sortir de la maison.
Voilà, c'est ça. Bien. Donc il est obligé de venir maintenant dans Vertigo. On accueille Floriane Soula, c'est une jeune autrice de science-fiction dans un roman qui s'intitule Soma et qui est un roman cyberpunk féministe.
Cyberpunk, c'est une expression des années 2000.
Oui, mais ça, bah oui, mais
ça existe
continue.
Encore.
Oui, c'est comme le futur. Le futur, ça existe encore.
Ça existe toujours.
Le futur ne manque pas d'avenir.
C'est joli,
paraît-il.
Quelle citation.
L'heure avec RTS Première.
Ce sera Vertigo après les infos. Restez avec nous sur RTS Première. Il est pile 17h. Excellente fin d'après.